Bonjour, c'est Olivier Saillard, vous écoutez Popopop. Popopop, c'est parti.
Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. J'avais le choix en ouverture de cette émission entre 1000 sujets liés à l'actualité de ce 16 octobre. En vrac, c'est la journée mondiale du bœuf, mais aussi de la colonne vertébrale. Et c'est aussi le jour anniversaire de l'arrivée de Napoléon à Sainte-Hélène, sujet qui me touche depuis longtemps, comme le savent sans doute ceux qui s'intéressent à Napoléon et à moi. Et j'aime tellement cette phrase que je me la répète juste pour le plaisir. Ceux qui s'intéressent à Napoléon et à moi, oui, ma vanité n'a plus de limite, me voici en orbite de ma propre autosuffisance. Donc, j'avais le choix, quitte à faire un petit mash-up en évoquant les problèmes de dos de Napoléon à Sainte-Hélène et l'absence de bœuf sur l'île, mais il se trouve que nous recevons aujourd'hui une chanteuse, et qui plus est, une chanteuse à voix. Une espèce pas si répandue que ça dans notre beau pays en général, et sur l'antenne de France Inter en particulier. Et pas n'importe quelle chanteuse à voix. Une chanteuse à voix multiprimée. Et pas n'importe quelle chanteuse à voix multiprimée, non, puisqu'elle est aussi actrice, mais pas n'importe quelle chanteuse à voix multiprimée, également actrice, mais une chanteuse à voix multiprimée, également actrice, elle aussi multiprimée. Bref, une voix qui compte, Izia Higelin est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Paune.
Bonjour Izia Higelin.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans notre studio Izia, vous recevoir pour la journée du bœuf. Vous qui avez un moment caressé l'espoir de devenir boucher. On va dire que c'est un hasard ou une coïncidence.
Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Jamais. À mes côtés, celle qui le caresse encore parfois, l'espoir, même si elle a cessé d'en consommer, du bœuf, Charline.
Oui, pas de l'espoir. Hein. Non. Bonjour Antoine. Bonjour Izia. Bonjour Charline.
Au menu également de Popopop, elle. Une autre chanteuse à forte personnalité, une rappeuse franco-chilienne qui s'appelle Anna Tijoué, qui sera avec nous tout à l'heure. Mais avant ça, Izia, ici il existe une question préliminaire, une question encore plus violente qu'un remix de Franck Michael. Et cette question, c'est... Izia, pour vous c'est quoi la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses isiesques, isititives, isianisées, et même isi tout court, comme dirait Booba. Et parmi mes préférées, il y a celle qui arrivait chaque soir sur le plateau de Canal+, pour faire sa météo sur votre musique. Doria Tillier !
Parfois, j'ai l'impression que pop, c'est un mot qu'on met devant culture pour faire pop culture, pour qu'on croit que c'est une culture plus cool, mais c'est juste de la culture. En fait, la culture, on croit que c'est chiant, mais... c'est pas chiant, c'est pop. Je crois que presque toutes les cultures peuvent être pop, en fait.
Bien, merci Doria Tillier. Et pour vous, Izia Higelin, qu'est-ce que c'est la pop culture ?
Elle me fait rire avec sa petite réponse intelligente, alors qu'elle a quand même une citation de Britney Spears encadrée dans un au-dessus de son lit.
Vraiment,
donc,
et qui dit quoi cette citation de Britney Spears ?
No, if Britney made it through 2009, then you can make it through this day.
Oh.
C'est le leitmotiv de Doria Tillier. Et donc moi, ma réponse à qu'est-ce que c'est la pop culture, je dirais que c'est Britney Spears.
Ouais. Bien, mais de Britney Spears encadrée au-dessus du lit de Doria Tillier.
Oui, alors ça c'est encore, oui. c'est carrément, c'est deep dans la pop culture.
C'est haut et c'est bas.
Bah, on a tout là, on a Doria Tillier, Britney Spears, un lit, un cadre.
Ça, et l'année 2009.
Et l'année 2009, ça vous convient, Charline ?
Parfait.
Très bien. Eh ben alors c'est parti, la pop, la culture et la pop culture. On va en parler dans la suite de Popopop, juste après un de vos morceaux, Izia, Heal Tomorrow. C'est un morceau avec les Naïve New Beaters. Stay hurt me.
Like a sandcastle in the wind, you couldn't focus. Rotting with a heart just to keep the donuts. We shut it down. Had to shed some black hair back in jail.
I just do it all. No, the world's smart. For sure I can fall. I have a
Heal Tomorrow, Naive New Beaters, featuring Izia. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une invitée qui a déclaré au monde diplomatique, enfin je crois, vouloir prendre une douche avec Brad Pitt. Qui est-elle? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Izia, c'est votre portrait bien sûr, mais... Et c'est signé Charline Raro.
Aujourd'hui, non pas une invitée, mais un ouragan. Oh, pas menaçant, hein, sacrément décoiffant pour quiconque aimant à être bien peigné. Ce qui ne vous aura pas échappé, chère Izia, n'est pas notre cas. J'ai personnellement le cheveu plat et ce qui se passe sur la tête d'Antoine, par pitié, reste sur la tête d'Antoine. Merci. Trêve de considération capillaire, on va pas les couper en quatre. Cette fille-là emporte tout sur son passage avec une force et une rapidité qui frôlent l'insolence. Celle, par exemple, d'une jeune fille qui assure la première partie d'un Iggy Pop à 16 ans. Car cet ouragan-là, à même pas 30 ans, compte déjà 13 ans de carrière, 4 albums, 9 films et une série. Oui, comme un ouragan, elle emporte tout, y compris l'adhésion du public et de ses pairs sous forme de statuettes dorées, 3 victoires de la musique, dont certaines accueillies par de multiples et un César du meilleur espoir féminin pour Mauvaise Fille. Et comme elle ne fait rien comme les autres en le recevant, elle n'a même pas pleuré, alors que je crois que c'est contractuel dans cette catégorie au César.
Confirme.
Bref, une invitée dont on se dit qu'elle sait tout faire et qu'elle ne s'en prive pas. En fait, je rectifie, cette fille-là, c'est pas un ouragan, c'est un kamehameha.
Un kamehameha,
ouais. Une sorte un de boule d'énergie.
Un kamehameha. Oui, c'est dragon machin. Ah, c'est pas ma génération, ça.
Non, c'est pas la mienne,
oui.
Non plus.
C'est la mienne.
Un kamehameha. Bon. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir où en est ce projet de douche avec Brad Pitt.
Oh, bah, malheureusement, ça n'a pas vraiment avancé.
Non.
À mon plus grand désespoir.
Reculé, donc.
Oui, non, dit, non, c'est au même stade. Oui. On est pareil.
Vous n'avez pas perdu tout espoir.
Non, ben bah non, en plus, c'est maintenant, voilà, il est séparé, il se refait un peu une petite actu. Je me dis qu'on peut peut-être se croiser dans un couloir d'hôtel.
Petite actu,
oui. Oui, une petite actu, enfin, oui, c'est ça. Deux petits films, tranquille. Voilà. Et puis bon, j'ai vu qu'il était toujours en pleine forme. Ouais. Alors, ma proposition.
Brad, if you listen to us, Izia would love to take a shower.
Yeah, but just a bath. I don't know, but maybe we can just hang around.
Just hang around.
You know, I will visit you Paris.
Okay, or maybe just wash your hands.
Whatever.
Not necessarily a shower. Bon, très bien. Alors, sera-t-il question de douche de Brad Pitt ou de douche avec Brad Pitt dans la séquence qui suit? Réponse avec votre populiste Izia. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Demande à la poussière de John Fante, publié en 1939. Alors Charline, je suis, comme vous, insensible à la beauté de la formule, mais concrètement, et là c'est à la ménagère que je m'adresse, que se passe-t-il quand on demande à la poussière?
Shame, shame, shame. J'ai envie de vous donner une clochette pour vous promener à travers ce studio. Et je vous répondrai donc que je ferai pas ça tous les jours. Allusion au Please qui n'a rien à voir avec le bouquin de Fante qui raconte l'histoire de Bandini, écrivain tourmenté et fauché, et sa tumultueuse relation avec Camilla.
Izia, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît? Elle tousse, elle s'éclaircit la voix, elle saisit le papier.
Elle m'a passé le bras autour du cou. Elle m'a tiré la tête et m'a enfoncé ses dents dans la lèvre inférieure. Je me suis débattue pour me dégager parce que ça faisait mal.
Oui.
Elle est restée à me regarder. Regagner l'hôtel, tout sourire, un bras passé par-dessus le dossier du siège. J'ai sorti mon mouchoir pour m'essuyer les lèvres. Le mouchoir avait du sang dessus.
Oui.
J'ai suivi la grisaille du couloir jusqu'à ma chambre. À peine j'ai fermé la porte que tout le désir qui m'avait fait défaut juste un moment auparavant s'est emparé de moi. Il me cognait le crâne et m'élançait dans les doigts. Je me suis jetée sur le lit et j'ai déchiré l'oreiller avec mes mains.
J'ai un peu l'impression.
Comment faites-vous pour faire d'un truc absolument magnifique un truc un peu sale, Antoine
Mais
de
ça
Cône.
N'a rien de sale, c'est sensuel.
J'étais partie sur quelque chose d'assez sérieux.
Ouais.
Et avec ces petits bondissements-là, je me suis dit, bon, bah, on va l'interpréter.
Mais non, c'est sensuel. Ah. Je visualisais votre rencontre avec Brad Pitt.
Oui, c'est ça. ça.
À travers
en fait.
Cet extrait de donc Demande à la poussière de John Fante. Que demandez-vous vous à la poussière, Isia?
Oh, j'en sais rien, la poussière.
Non, pourquoi ce livre vous a tellement séduit?
Oh, parce que je l'ai lu, je pense, quand j'avais 16 ans la première fois, sur les conseils d'un ami, et ça m'a vraiment bouleversée. J'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé la littérature qui me plaît, en fait. J'avais du mal un peu à trouver des livres qui me parlaient vraiment, et je pense que ça a été un vrai choc par justement la violence des mots, côté très cru. Ça m'a vraiment retournée. Après, j'ai commencé à lire des choses comme du Shelby et tout ça, et ça a vraiment été c'est des lectures qui ont été hyper importantes pour moi.
C'est une très bonne entrée en matière en littérature, John Fante, quand on a du mal, quand on a, je sais pas, 15 ans, 16 ans, et qu'on a, on a du mal à lire. Fante, Raymond Carver, si je peux me permettre de donner ses conseils. Allez-y, jeunes auditeurs qui nous écoutez et qui vous aussi avez du mal à lire.
Lisez Mon chien stupide, c'est le plus court. C'est une très bonne...
C'est pas la taille qui compte, vous savez. Bien, Isia, pour le film, vous avez
entendu
choisi
parler de cette théorie.
Le Seigneur des Anneaux, une trilogie réalisée par Peter Jackson entre 2001 et 2003. Charline, alors je sais bien qu'il s'agit de cinéma, mais c'est encore la ménagère que je m'adresse. Quel type d'anneau me conseillez-vous avec des rideaux en coton surpiqué?
Parce que vous pensez vraiment que Tolkien, dont la trilogie a été prise au cinéma, se préoccupait de ses voilages? Vraiment?
Oui,
vous pensez ça?
Oui, bien sûr,
évidemment. Non, il préférait les aventures de hobbits, de magiciens, d'elfes, de rois et de nains, et vous mériteriez de muter en Gollum pour votre pénitence.
Extrait.
Une amitié avec Saruman, ça ne se refuse pas comme cela. Embrassez le pouvoir de l'anneau, ou embrassez votre propre destruction. Il n'y a qu'un seul seigneur de l'anneau. Lui seul a le pouvoir de le plier à sa volonté. Et il ne partage pas ce pouvoir.
Embrasser le pouvoir de l'anneau.
Non.
Vous aimez bien les personnages à oreilles pointues, Isia?
Oui.
Oui.
Ouais.
Dans Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, d'une manière générale dans
D'une manière générale, dans la vie, j'ai un truc pour les oreilles pointues.
Alors, Le Seigneur des Anneaux, c'est toute la trilogie, vous êtes séduite par tout l'univers.
Ouais, j'étais depuis que je suis toute petite. Ouais, mon père, il me lisait Bilbo pour m'endormir le soir. C'est vraiment un ouvrage qui a été hyper important pour moi. Ensuite, la trilogie que j'ai lue à adolescente. Et donc, quand les films sont arrivés, c'était vraiment le cataclysme. J'étais trop contente. J'allais voir tous les films à leur sortie. C'est vraiment un truc. Si ça tombe à la télé, que je le vois, je vais scotcher dessus immédiatement. Je connais tous par cœur. Viggo Mortensen, tout ça, l'amour de ma vie avant de Brad Pitt. Donc douche, ça marche aussi pour
Viggo. On peut aussi se
doucher
Aragorn.
Voilà,
tout à fait.
Exactement. C'est vraiment une passion.
Il faut une douche de piscine bientôt pour accueillir tout ce monde-là.
Et plus avec Aragorn qu'avec Legolas, l'elfe.
Oui, brun ténébreux plutôt que le blond.
Vous pouvez redire la phrase, là, s'il vous plaît?
Plus avec Aragorn qu'avec Legolas. Aragorn, c'est Viggo Mortensen. Legolas, c'est... comment s'appelle-t-il? J'ai oublié.
C'est
le blond très... Orlando Bloom.
Voilà, on s'en souvient pas.
Orlando
la preuve.
On vient de me le souffler.
C'est Legolas, c'est tout ce que je retiens. Alors, Isia, pour la série, vous avez choisi Breaking Bad, créé par Vince Gilligan, diffusé entre 2008 et 2013, disponible sur Netflix en France. Charline, nous avons souvent parlé de En cassant mauvais, le titre français dans Pop Pop Pop. Qu'en dire de plus qui étonne nos fidèles auditeurs? Je vous laisse le champ libre.
Qui étonne, je ne sais pas, mais que les nostalgiques peuvent retrouver Jesse Pinkman dans El Camino Breaking Bad Movie, dispo sur Netflix pour savoir ce qui est arrivé à Walter White après... ce que vous savez, non, vous n'avez pas vu, à Walter White ou à son célèbre et sinistre alias.
C'est dégueulasse.
Who the hell are you?
You know. You all know exactly who I am. Say my name.
What? I don't have a damn clue who the hell you are.
Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring.
Bullshit. Cartel got Fring.
You sure? Now, say my name.
Heisenberg.
You're goddamn right.
Isia Higelinger,
Non mais arrêtez, rien que d'avoir mis un extrait. Le générique, ça me fait une espèce de FOMO, là. J'ai juste envie d'avoir rien vu des 6 saisons et d'être...
De FOMO.
C'est ça, de Fear of Missing Out.
Fear of Missing Out.
Ouais, mais FOMO, j'ai envie, ouais. Je sais pas.
J'ai appris un mot. Qu'est-ce que vous pensez d'abord du titre français, En cassant mauvais?
C'est très bien.
Ça vous plaît?
Oui.
Et ensuite, bah pourquoi ça vous provoque ce faux mot, cette...
Mais non, mais parce que c'était vraiment extraordinaire, les acteurs, les personnages, le scénario, sauf un peu la fin. Alors moi d'ailleurs, j'ai été assez sceptique sur la fin, ça m'a vraiment troublée. Du coup, j'ai trouvé une théorie d'une journaliste du New York Times qui dit, bah en même temps je vais pas spoiler, mais qui disait qu'à un moment où la scène où il est caché dans la voiture et il neige et les flics lui passent devant, je sais pas si vous vous rappelez, et ne le voit pas. En fait, elle estime qu'à partir de ce moment-là, il est vraiment déjà mort et que tout est un rêve en fait, et que toute la fin est un espèce de fantasme. Et j'ai beaucoup aimé cette théorie-là qui me confortait dans l'idée que c'était pas si bien que le reste de la saison.
Vous avez regardé le film ?
Non, j'ai peur. J'ai peur.
Vous avez une théorie sur la fin des Sopranos ?
Non.
Bah parce que je me pose toujours la question.
Bon.
Bah non.
C'est tellement dur de parler de quelque chose sans pouvoir aller au bout des choses.
C'est les paroles d'experts.
On y reviendra. Isia Higelin, terminons cette pop list avec votre chanson culte. Cette chanson, c'est celle-ci. Rock'n'Roll Suicide de David Bowie, paru en 72 sur l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Vous êtes donc bowiste, Isia?
Oui, extrêmement bowiste.
Extrêmement bowiste.
Ouais.
Iriez-vous jusqu'à dire que c'est Bowie qui vous a donné envie de chanter?
Non, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un personnage qui m'a vraiment bouleversé. Mais comme tous les mecs un peu de ces années-là, quand même, putain, c'était autre chose, quoi. C'est...
Approfondissez.
Non, mais en fait, j'ai vu là, il y a pas longtemps,
je suis de cette époque-là.
Non, mais c'est ça. Non, mais j'aurais pu citer un morceau des Queen aussi, parce que c'est... Rock'n'Roll Suicide, il a cette espèce de voilà d'énorme montée comme ça, hyper empirique et tout, qui est vraiment, enfin moi c'est des morceaux qui me bouleversent, qui me transpercent, je suis vraiment cliente absolue de ce genre de mélodie là. J'ai vu le film sur Queen, la Bohemian Rhapsody, pour la première fois il y a quelques jours, et ça m'a vraiment bouleversée, quoi. Tu te dis, mais putain, mais quel type, quoi, quel mec, quoi. Vraiment, je pleurais dans le lit avec la scène finale à Wembley et tout. Enfin, j'étais vraiment bouleversée. Putain, ça y est, j'ai envie de casser des bouches, quoi. J'ai envie d'aller sur scène et j'ai envie d'être comme ça et d'en avoir rien à foutre. Parce que souvent, parfois, tu peux un peu t'excuser d'être toi et tout. Enfin, genre. Puis là, je me dis, mais non, mais fuck it, quoi. Putain, c'est ça, il faut vraiment vivre sa musique comme Rock'n'Roll Suicide, comme ces espèces d'élan hyper, hyper deep. Bah, moi, j'ai vraiment envie de ça, là. J'ai envie d'être sur scène et de.
Vous voulez dire qu'on est devenu frileux aujourd'hui?
Un peu, ouais, je trouve. Ouais. Un petit peu, ouais.
On a peur de tout, on a peur de cette dimension héroïque, folie, de cette démesure.
Moi, je pense.
Mais c'est vrai que vous ennuyez quand vous allez voir des gens sur scène?
Non.
Bah, ça dépend qui. Ça dépend qui. Non, ça dépend qui. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à... J'aime ces morceaux, forts.
Bien, alors votre pop list, Isia, je résume. Demande à la poussière, Le Seigneur des Anneaux, Breaking Bad et David Bowie. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça. Oh no, love,
you're not alone. Who the hell are you?
You all know exactly who I am.
Une amitié avec Saruman, ça ne se refuse pas comme cela.
Say my name.
J'ai sorti mon mouchoir pour m'essuyer les lèvres. Le mouchoir avait du sang dessus.
Oui.
J'ai suivi la grisaille du couloir jusqu'à ma chambre.
Il n'y a qu'un seul seigneur de l'anneau.
You're goddamn right.
Voilà un petit résumé de ce qui trotte dans votre tête, Isia, aujourd'hui.
C'est un peu dark.
Ouais.
C'est moins dark dans ma tête.
Bon, très bien, bon, on va éclaircir tout ça dans l'émission. Avant de parler de Citadel, votre quatrième album, on en écoute un extrait avec ce morceau, Trop Vite.
Les émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du riz au lendemain si vite. Les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite.
Pop-pop-pop. Antoine Decaune
et Charlie Nérault.
Prénom, Instagram et concert sont les résultats qui tombent en premier quand on tape votre nom sur Google, Izia Higelin. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter Citadelle, cet album qui arrive 20 jours avant la sortie de Debout sur la montagne, le film de Sébastien Belbédé, dans lequel vous jouez, et pendant que vous tournez, Petite Nature, le film de Samuel Theis. Alors on dit quoi ? Couteau suisse de la pop culture, workaholic, popaholic.
Oui.
N'avez pas peur de la charge mentale, par exemple?
Non, mais enfin, je sais pas. Quelqu'un m'a dit un jour, vaut mieux toujours faire que pas faire, et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Mm-hmm. Et quand on a commencé à mettre en place le tournage de Samuel, là, qui était pile pendant vraiment le début de ma tournée, où j'avais vraiment mais des concerts, des répètes, des trucs tout le temps, et on a mis des jours de tournage pendant tous mes jours de repos. Et quand j'ai vu le planning, j'ai fait putain, mais je vais jamais y arriver. Au début, je me suis dit mais c'est complètement inutile, c'est complètement fou de faire ça. Puis il y a cette petite voix qui est venue dans ma tête me dire faut toujours mieux faire que pas faire. Et et c'est vrai que je pense que si j'avais refusé le rôle, tous les jours je serais allée me reposer chez moi, j'aurais dit putain, j'aurais pu être en train de tourner. Et rien que de me dire ça, ça m'a vraiment poussée à le faire.
Et puis c'est des plaisirs très différents et complémentaires aussi.
Ouais, c'est des énergies totalement différente. Mmh. C'est vraiment deux. Enfin, parfois on met ces deux arts l'un à côté de l'autre, mais pour moi, enfin, vous le savez très bien, c'est vraiment deux disciplines complètement opposées, quoi. Dans l'énergie, dans la concentration, dans l'implication personnelle aussi.
La question rituelle qui vous est posée est, paraît-il, mais d'où vient toute cette énergie?
Ouais.
Alors, Izia, d'où vient toute
Arrête
cette énergie?
C'est vraiment la question qui me fait hérisser les poils. Genre, vraiment, ça me met mal.
C'est un faux mot.
Mais d'où vient toute cette énergie?
Parfois, j'avais bah, de l'héroïne. Alors, j'en prends, mais un max. Et vraiment, ça me fait un bien.
C'était ça, l'album de la maturité. Hein.
Une chanteuse comédienne, biberonnée à Fred Astaire et Ginger Rogers. Qu'est-ce qu'on attend pour vous proposer une comédie musicale? Et si c'est le cas, est-ce que vous voulez plutôt un truc genre La La Land ou bien du demi? Plus classique.
Plus du La La Land. Moi, je suis très... quand même cinéma américain quoi. Mais j'adorerais, c'est mon rêve absolu.
C'est le moment.
Je pense que je vais devoir la faire.
C'est le moment idéal pour le faire savoir, mais non. Voilà, on mais a Lydia Higelin, qui est une chanteuse incroyable, une actrice incroyable, qui sait tout faire. Vous avez fait des claquettes aussi.
Ouais.
D'accord ?
Ouais, ouais.
Donc qu'est-ce que vous attendez pour lui faire faire une comédie musicale, bon sang de bonsoir?
À qui parlez-vous?
À ceux qui nous écoutent,
carrément. C'est très inquiétant.
Je vous explique, des gens nous écoutent.
Ah.
Oui, nous sommes à la radio, Charline.
Très bien.
Non, on n'est pas chez nous.
Mais parlez à Damien Chazelle, il paraît qu'il est en France en ce moment en train de tourner.
Damien Chazelle, if you're listening to us, please take his yacht.
Yes, and maybe we can take a shower too.
Yes, with Brad Pitt.
With Brad Pitt and Viggo Mortensen.
Citadelle, c'est le titre de cet album. Donc une citadelle, c'est une place forte qui permet aussi de voir de haut. Est-ce que c'est ainsi que vous l'avez conçu, cet album?
Oui, enfin, je l'ai. Cet album pour moi, c'est vraiment la. Enfin, le nom de l'album Citadelle, il m'est venu à la fin. En fait, à la base, c'était le nom du morceau Calvi, et j'ai voulu appeler l'album Citadelle parce que inconsciemment, en fait, même si je trouve que c'est un très joli mot et qui représente des choses, des images très fortes, j'ai vraiment l'impression que c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je me sens solide, je me sens ancrée. Voilà, c'est un lieu qui représente énormément de choses pour moi, mais au-delà de ça, c'est ouais, j'ai l'impression d'avoir quand même traversé pas mal de trucs, même si je suis encore très jeune, j'ai 29 ans, mais j'ai commencé, j'avais 16 ans, et j'ai l'impression d'avoir vu passer pas mal de choses, mine de rien, un peu comme une citadelle.
Et la citadelle, c'est donc celle de Calvi, comme vous venez de le dire à l'instant, c'est marrant parce que moi j'entends Calvi.
Oui.
C'est aussi ce que vous venez de dire à l'instant.
Mais c'est aussi ce que je dis dans le morceau. Je dis
Absolument.
Calvi,
Citadelle Calvi que votre père a longtemps fréquenté, un endroit où, qu'il adorait. Vous êtes souvent allé, et c'est un album qui a vu le jour alors que vous attendiez votre petit garçon et que votre père, lui, prenait congé. Se précipiter de roman familial, est-ce que ça en fait un disque unique à vos yeux, et comment est-ce que ça se traduit quand vous l'écoutez?
Oui, c'est un disque complètement unique. Enfin, parce que ce que j'ai vécu, c'est la perte d'un parent, c'est quelque chose qui est complètement inévitable, mais c'est une étape dans une vie qui est...
Et que ça corresponde à l'arrivée d'un
enfant.
Oui,
justement, voilà. Et qu'après ça correspond. Alors après, je me suis rendu compte que c'est pas si anodin que ça. Enfin, ça arrive beaucoup. Enfin, que c'est plutôt anodin. Enfin, je veux dire, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que voilà, ils avaient eu un enfant alors que un de leurs parents partait et tout ça, et c'est vraiment le cycle de la vie, et c'est vraiment la mort fait partie de la vie, la mort est le berceau de la vie, comme chantait mon père.
Mais vous avez fait ce disque dans le feu de l'action, aujourd'hui quand vous le réécoutez avec un peu de recul, est-ce que ça lui donne une couleur particulière?
Mais bien entendu, enfin je veux dire, c'est la base de, enfin je veux dire, je parle de ça, je parle de la vie. Bon, déjà, je réécoute pas vraiment mes disques parce que une fois qu'il est fini, c'est fini, et j'ai toujours du mal à le réécouter. Mais bon, pour moi, cet album, c'est mon album le plus personnel. C'est l'album dans lequel je me livre vraiment comme jamais je me suis livrée. Et c'est un album hyper important pour moi. Vraiment, au-delà du fait que c'est un disque, c'est toujours important pour soi. Celui-là, je suis hyper fière de l'avoir fait, d'avoir mis les chansons qu'il y a dedans, d'avoir dissimulé des petits talismans dedans, des petits hommages, enfin des petits messages plus que des hommages à mon père par-ci par-là. C'est un objet que, quand mon fils l'écoutera, je serai contente qu'il puisse écouter ça aussi.
C'était la question que je voulais vous poser.
Justement, entre autres très belles chansons sur Citadelle, on peut entendre ceci. Que tu saches, qui clôt l'album adressé à votre fils, est-ce qu'on peut voir en Citadelle aussi un album sur la transmission? À plusieurs étages.
Ouais, oui, complètement. Après, le message dans Que tu saches, j'en parle comme si j'en parlais à mon fils, mais c'est un message que j'adresse à tout le monde et à moi-même aussi, avant tout. C'est vraiment que, quoi qu'il arrive dans la vie, tout passe, enfin, tout passe pas, mais tout se transforme, tout nous construit, tout nous rend plus fort, différent. Et moi, c'est typiquement voilà ce qui a pu m'arriver ces dernières années où j'ai l'impression de sortir de là, d'avoir fait putain, waouh, c'est fou quand même. C'est voilà ce que nous réserve la vie parfois, et c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, enfin un conseil, quelque chose qu'on me dise plus. T'inquiète pas, tout passe à un moment.
Il y a deux genres de fils et filles d'eux, hein. Enfin d'ailleurs de genres de fils et filles tout court. Ceux qui préfèrent qu'on les lâche avec ça, et puis ceux qui, au contraire, assument et revendiquent. Qu'est-ce que votre père à vous vous a transmis, Isia?
Je réponds souvent ça, mais c'est la vérité, c'est la liberté. Mon père m'a vraiment transmis la liberté. Je l'ai toujours vu évoluer en étant toujours fidèle à lui-même pour les bons moments et les mauvais aussi, et de toujours s'écouter, de toujours se faire confiance, de savoir dire non, de savoir dire oui, d'embrasser les situations à bras le corps, de toujours profiter des moments que nous offre la vie. Et cet album, il parle de ça aussi, de vivre intensément les choses, de vivre pleinement la vie. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a appris aussi, de jamais laisser passer un beau moment.
Sur cet album, on retrouve celui que vous désignez comme votre parrain dans ce métier, en l'occurrence Dominique A. Pourquoi avoir fait appel à lui précisément pour cet album-là ?
Alors déjà, j'ai dit ça, oh mon Dieu, malheur, dans une interview, et ça commence à être repris. Je considère pas comme mon parrain, c'est juste que non mais
c'est vraiment, un dé. C'est,
ouais non mais je pas mon parrain, c'est juste ouais. En fait j'avais dit c'est comme mon parrain et ma marraine la bonne fée. Enfin quand j'ai que d'avoir mis Jeanne Haddad et Dominique sur ce disque, pour moi c'est vraiment comme j'ai pu insuffler plein de petits gris talismaniques dans ce disque. Jeanne et Dominique, c'est aussi ça, c'est des gens que je respecte tellement fort que leur présence sur le disque pour moi c'était voilà comme un signe de bon augure.
Et avec Jeanne Haddad, vous réussissez un autre tour de force. Soit la faire chanter en français, est-ce qu'elle a été difficile à convaincre?
Non, pas du tout. Mais Jeanne, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Et voilà, c'était vraiment important pour moi de collaborer avec elle. Et au contraire, je crois qu'elle a très envie de se mettre au français, elle aussi. Donc, je lui souhaite tout le meilleur.
C'est un quatrième album qui s'éloigne des influences rock des deux premiers, qui prend plus un virage électropop. C'est une page tournée ou une évolution logique pour vous?
Non, c'est une évolution logique. Après, je fais vraiment la musique que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'écouter, que je ressens. Après, je reviendrai peut-être à des albums plus organiques plus tard. Ça, c'est vraiment pas. Je sais même pas ce que tu fais. Peut-être que je chanterai en turc. Peut-être que je ferai un album en langue des signes,
en kurde.
Ouais, voilà.
Ou sous la douche.
Ou sous la douche. Que des duos avec Brad Pitt, je sais pas.
Justement. Attendez, je vais revenir là-dessus puisque nous parlions de la fameuse douche avec Brad Pitt en début d'émission. Mais Brad avait une question pour vous, écoutez.
Bonjour, Isa Higelin, c'est Brad Pitt. Dites-moi, ça vous fait quoi de savoir que Brad Pitt n'est pas insensible à votre charme?
Regarde. Ça me fait glousser.
Ok, alors en fait c'est la voix française de Brad Pitt, hein, mais ça vous fait quoi de savoir que le Brad Pitt VF n'est pas insensible à votre charme?
On peut s'appeler.
Thibault de Montalembert.
S'appeler en fait et se parler au téléphone pendant longtemps.
Thibault, parce que vous écoutez, appelez s'il vous plaît Isia, puis réglez ça au téléphone avec ou sans douche. Bien, Isia, avant de passer au Pop News, il y a une question que je n'ai pas osé vous poser. Mais d'où vous vient toute cette énergie?
Ça suffit maintenant.
Ok, ça s'appelle Citadelle, c'est le quatrième album. Et il est tout à fait réussi, bravo, mille fois. Merci. Bravo. Vous savez faire plein de choses, je l'ai dit, chanter, danser, faire des claquettes. Vous savez faire ça? Évidemment qu'elle sait le faire. C'est pour lancer les Pop News.
Et si vous passiez une soirée lecture en compagnie de l'homme qui a vendu 350 millions de ses quelques 50 romans et 200 nouvelles, le maître de l'angoisse, le roi de Derry, puisque King est son nom, Stephen son prénom. Et comme il a fait l'objet de 80 transpositions à la télé et au ciné, deux journalistes intrépides et un peu fêlés se sont plongés dans le colossal héritage filmé de l'auteur de Cujo ou encore de Shining, un ouvrage dans lequel vous découvrirez les Stephen Kingismes, soit les 32 motifs récurrents décelés par François Coe et Mathieu Rostac dans l'œuvre du maître, motifs parmi lesquels on peut citer un héros écrivain, des enfants ados au pouvoir surnaturel, une bonne bande de copains ou encore un personnage de femme forte. Les romans sont comparés aux œuvres filmées, tout est passé au peigne fin, voire très fin. C'est passionnant et c'est drôlement bien fait. D'après une histoire de Stephen King, de Mathieu Rostac et François Coe, c'est publié chez Hachette Heroes.
Des aventures extraordinaires et trépidantes pour des héros que tout oppose. C'est en substance le contrat du film Disney Jungle Cruise, réalisé par Jaume Collet-Serra, plutôt intriguant car c'est à lui que l'on doit le très flippant Esther. Au casting, Emily Blunt et Dwayne The Rock Johnson. Extrait.
You're gonna beg me to turn back.
Well, I look forward to disappointing you.
10,000 to bring you there alive. Dead is 15,000.
Why should I pay more dead?
Dead, I'd have to carry you. Dead's a lot harder, lady. Here we go.
Jungle Cruise, ce sera parfait pour l'été et c'est pour ça que ça sortira le 29 juillet.
Les Foo Fighters fouillent leurs archives et partagent sous forme d'EP et sur celui intitulé 01-02-02-25, entre autres merveilles, on peut trouver une reprise du Planète Claire des B-52s jouée en live en 2002. Des archives qui permettront de patienter jusqu'à la sortie du prochain album sur lequel la bande à Dave Grohl a annoncé être en train de plancher.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Yeah, that's me.
The Rock.
Mais oui, ouais, Dwayne, bien sûr. The Rock, Johnson, bravo, Charlene.
Isia, vous restez avec nous avant d'accueillir la rappeuse franco-chilienne Ana Tijoux. Écoutons-la avec ce morceau 1977.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva. En la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz y sonó. No, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marchaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presento. Todo lo que cambia lo hará diferente
1977, cet extrait de l'album 1977 d'Anna Tijou. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie d'Isia et vient de nous rejoindre Anna Tijou. Bonjour Anna Tijou.
Bonjour.
Bienvenue dans notre studio, je vous présente Charline.
Enchantée.
Vous serez sur la scène du Festival des Musiques du Monde à Aubervilliers ce vendredi, mais avant ça, faisons connaissance. Alors Anna Tijou, vous êtes née à Lille, vous vivez entre la France et le Chili. Rolling Stone vous a élu meilleure rappeuse hispanophone. Le New York Times vous décrit comme la réponse latino-américaine à Lauryn Hill. Et Newsweek vous classe comme la plus importante rappeuse latino-américaine de la scène internationale. Et moi j'ai envie de dire mon coup de cœur. Alors vous préférez quoi ? Le New York Times, Rolling Stones, Newsweek ou moi ?
Toi.
Ah.
Avait-elle vraiment le choix ?
Ben oui, bien sûr, on a toujours le choix dans la vie.
Anna, c'est pourtant en France que vous avez découvert le hip-hop. Quels ont été vos premiers émois rythmiques ?
En fait, j'écoutais du rap dès que j'avais 8 ans, 9 ans, avec NTM, IAM, quoi. Enfin, je crois que les classiques parce que je comprenais les paroles aussi, puis après avec Public Enemy, enfin des trucs en anglais, mais étant donné que je comprenais les paroles, c'était vrai, c'était le rap français, quoi.
Donc vous avez grandi au son de IAM, de NTM.
Voilà.
Ouais. D'accord. Anna Tijou, vous compilez plus de 21 millions de vues sur Spotify pour le morceau de 1977 que nous venons d'entendre, un morceau que Thom Yorke de Radiohead a conseillé d'écouter à ses fans. Vous n'aviez pas d'autre choix comme attaché de presse ?
Non.
Non.
Mais très bien.
Oui, très bien, oui, ouais. D'accord. Pourquoi Thom Yorke, vous savez, connaissez la connexion, non ?
Il faudra lui demander, je ne sais pas du tout.
C'est juste qu'il est tombé sur la chanson, qu'il est...
Ouais, il est tombé sur le morceau, en fait, il avait une playlist où il disait que c'était son morceau favori, je ne sais pas, pour l'été, un truc comme ça. Mm-hmm. Je ne sais même plus comment ça s'est arrivé, en fait.
C'est un homme de goût, voilà.
Oui, d'accord. Alors, 4 albums au compteur, tous en espagnol. Il y a 2 albums en anglais avant de finalement revenir au français. Comment se détermine le choix de la langue dans laquelle on se décide à chanter ?
Bah dans mon cas, enfin, je sais pas. Vous, toi ?
Allez-y, vas-y, toi.
Bah je sais pas, dans mon cas, enfin, j'ai vécu pendant plusieurs années au Chili et puis on parle espagnol, donc. Je crois que c'est le fait que
oui, mais vous avez grandi en écoutant du rap français, donc vous auriez pu aussi faire le choix du français.
Ouais, mais ça fait trop d'années que je suis en Amérique latine et je crois que pour moi, en fait, c'est que quand je commence à rêver en espagnol, c'est parce que j'arrive à vraiment à penser en espagnol. Mm-hmm. Je crois que c'est peut-être ça aussi le lien. Mm.
Pas de projet de chanter en français, donc.
Si, pourquoi pas.
Dans l'immédiat, non.
Il faudrait que je rêve en français pour rêver en français.
Et vous, Isia, quand partez-vous à la conquête du marché hispanique ?
Il faudrait que je reprenne un peu mon espagnol là où j'ai laissé, c'est-à-dire en troisième. Mais c'est une très belle langue et c'est très beau. Mais déjà que je viens de passer au français, je vais encore rester un peu là-dessus.
Oui, mais voilà, vous avez refait la bascule à l'envers, vous, de l'anglais au français.
Ouais.
Donc vous rêvez en français.
Oui, mais ça fait longtemps.
Et puis avec cet album en turc qui va arriver.
Oui, qui va arriver bientôt.
En kurde.
Anna Isia, vous avez aussi pour point commun le fait d'évoluer dans des milieux traditionnellement vécus comme très testostéronés. Comment est-ce que vous vous y sentez et est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de gentiment évoluer ?
Je crois que tout est testostéroné. Je ne crois pas que le rap en particulier, je crois que tout est très macho en général. Il y a beaucoup de travail maintenant, il y a beaucoup de femmes qui commencent à s'investir et... Il y a beaucoup de femmes, au moins en Amérique latine, qui commencent à rapper, à faire la production, DJ. Enfin, ça bouge depuis des années quand même.
Moi, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, donc j'avais des talons comme ça.
La première partie d'Iggy Pop, hein, quand même.
Ouais. Mais quoi, j'avais fait la première partie de Motorhead aussi. Je m'étais fait lancer des trucs, enfin machin. Et puis après, j'avais chanté avec ma guitare et tout le monde avait un peu fermé sa gueule. Et je pense que parfois, la voix peut parler de soi. Moi, j'ai pas hésité à mettre des mains au cul des mecs qui me cassaient les couilles.
Ah oui, d'accord. Oui. Anna, comme tous nos auditeurs ne sont pas hispanophones, il se peut que le sens de vos paroles ait échappé à quelques-uns. Or, vous chantez sur des sujets brûlants et politiques comme la défense des droits des femmes et les inégalités de genre. Vous êtes ce qu'on appelle une artiste engagée. Vous voyez comme ça ou pas ?
Oui, parce que je crois qu'on est dans un moment politique mondial assez complexe où tout est polarisé, tout est très violent et c'est pas seulement. Je crois que c'est pas être engagé, c'est le fait de sentir que ce qui affecte au coin du monde, ça m'affecte aussi. Enfin, c'est avoir un lien avec le reste du monde, c'est un regard vers le. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être un militant dans un parti politique pour être engagé. Je crois que c'est juste le fait de faire un jeu d'observation vis-à-vis de ce qui se passe. Enfin. C'est un moment compliqué, je trouve, mondialement. Et c'est partout pareil, hein. C'est pas seulement ici en France. Enfin, moi, j'ai vécu pendant plusieurs années en Amérique latine et c'est un moment complexe mondial, je trouve.
Et justement, vous qui partagez deux cultures, quel regard portez-vous sur ce que les Européens pensent savoir de l'Amérique latine et inversement? Vous sentez des grosses...
C'est très marrant ce que l'imaginaire d'Amérique latine. C'est marrant parce qu'en fait, on est un continent comme l'Afrique, on est très complexe, on est très différent. Tous les pays, enfin, le Chili n'a rien à voir avec le Mexique rien à voir avec le Venezuela. Et la musique aussi, donc c'est un continent très riche, pareil que l'Afrique. Donc parfois, c'est vrai qu'il y a une postale qui est assez marrante. On est tous caliente, chaud, ça n'a rien à voir. Les gens qui viennent du Sud, comme moi, on est très, très plutôt timides, c'est très très différent, quoi.
C'est l'exil forcé de vos parents au moment de la dictature au Chili qui a laissé une empreinte aussi forte dans votre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez mal chanter de simples romances?
Je crois que l'amour et le roman, c'est très politique aussi. Je crois que c'est la première relation politique qu'on établit à quelqu'un d'autre. C'est des consensus infernales, être en couple. Mais si, je crois que le parcours de mes parents qui ont été exilés politiques et le fait d'être né en France, finalement, dû à la dictature chilienne, fait que oui, j'ai un regard vers le monde parce que c'était les conversations qu'on avait à table. Mais je crois que j'ai eu une éducation super où on a toujours une vision très internationaliste, au-delà du Chili. Et je crois que la France, sur ça, a été super aussi. Quoi. On avait toujours des amis palestiniens, un peu de partout. Donc il y avait une sensibilité face à l'autre aussi.
La pop culture, ce sont des croisements et des rencontres. Et le lien entre vous, Anna et Isia, c'est Iggy Pop. Isia, vous avez assuré donc la première partie en 2007 d'un de ses concerts. Et vous, Anna, Iggy vous a repéré plus récemment et vous a intégré à sa playlist sur la BBC. Iggy qui dit de vous que vous avez, je le cite, des couilles.
Ouais, je savais pas, merci. J'ai deux grandes couilles,
Je vous l'apprends aujourd'hui, ça fait plaisir d'entendre
j'ai
ça.
J'ai fait la première partie aussi des hip-hop à Santiago.
C'est vrai?
C'est marrant.
Bah alors, échange d'impressions, s'il vous plaît, mesdames.
Oh, c'était il y a longtemps, mais... Oh, c'était super, mais j'avais chanté avec lui après, c'était encore mieux au final. Il est vraiment chouette.
La musicale de Canal+,
c'est ça, ouais.
Il vous a dit aussi que vous aviez des couilles ou pas?
Non, il m'avait laissé son numéro de téléphone sur un sac plastique.
Ah, je le reconnais bien là. Et
il m'avait mis sur un sac plastique en me disant If you ever need me, call me. Et j'avais l'impression, genre, bon, mais quand est-ce que je vais avoir besoin d'Iggy Pop? Je vais le ranger, peut-être, je sais pas si mon évier est bouché.
Oh, et vous, Anna, vous avez pris ça comme un compliment?
Oui, enfin, ça dépend des couilles. si, non, j'ai pris ça comme un compliment parce que, enfin, j'ai toujours écouté beaucoup de musique et mon père est très rocker, donc, j'écoute du hip-hop, mais j'écoute de la musique en général, donc, c'est un super artiste, quoi.
Bien. Maintenant, il faut que tout le monde écoute ici Anna Tijoux. En attendant, on va vous écouter, vous, s'il vous voulez bien, Isia, vous rejoignez la scène mythique de Pop. Vous allez nous interpréter Idole, cet extrait de votre quatrième album Citadelle. Et dès que vous êtes prête, vous me faites un petit signe et je vous envoie le pop du départ.
Dans mes yeux, vois-tu dans mes yeux? Combien je t'en veux, comme je tremble. La colère traverse ma peau, coule dans mon dos comme un fleuve. Quand je crois
Bien sûr, au clavier, et c'était en live sur la scène de Pop Pop Pop. Merci, mesdemoiselles. Citadelle, votre nouvel album Isia est disponible et j'en profite pour annoncer que vous serez en tournée en France à partir du 8 novembre. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci aussi à vous, Anna Tijoux.
Merci.
Vendredi, vous serez sur la scène du Festival des Musiques du Monde à Aubervilliers, ce vendredi, pour votre unique date en France. À ne pas rater. Merci à vous deux.
Merci. Merci.
Et merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Rémi Sistiaga et Louis Audebert, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restal, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Jean-Jacques Burnel des Stranglers et Nicolas de Crécy pour sa BD Visa Transit. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos pour apprendre l'espagnol sur YouTube, suscríbete a nuestro podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.